Vous avez sans doute vu la série de reportages en fin de semaine dans la presse qui ramène encore une fois la difficulté, un, d'accès pour les gens qui ont des besoins de santé mentale, besoin d'être vus, d'être suivis, d'être encadrés, d'être aidés. Les proches également qui vivent cette pression-là. C'est pas nouveau. On en parle quand il y a un événement tragique. Puis on en parle aussi quand un ministre comme le Dr Carman fait des annonces. Puis là, on nous dit, ben, on investit 100 millions, tu dis très bien. Ça va passer par les guichets, OK. Tu découvres quoi? Que les guichets sont inégaux et que finalement, il y a beaucoup d'enjeux. Alors, aujourd'hui, des médecins, des bénévoles, des proches de patients également signent un manifeste pour l'accès à des soins de santé mentale. Je vous présente deux des signataires avec nous ce matin. Dr Claire Gamache, qui est médecin psychiatre. Elle est aussi, donc, à Laval et pratique, justement, au guichet d'accès Laval. Docteur Gamache, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Et René Cloutier, qui est le directeur général du réseau Avant de craquer, qui est un organisme qui représente les familles des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. M. Cloutier, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Docteur Gamache, je commence avec vous parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Je le disais tantôt, quand il y a un événement, quand il y a une annonce ministérielle, mais ce que j'entends de mes auditeurs, ce que je lis de mes auditeurs, c'est que ça demeure très difficile, difficile d'avoir accès, d'être vu et surtout d'avoir un suivi. C'est beaucoup de placotage autour de la santé mentale, mais on a l'impression qu'il manque d'action un peu.
En fait, il manque d'action concertée. Hein, ce qu'on propose là, dans le manifeste, là, c'est trois mesures différentes pour essayer de faire en sorte d'abolir au maximum les silos. Et dans le communautaire, et dans le système de santé, et chez les pères aidants, et chez les proches des familles. Donc, on veut s'assurer de travailler tout le monde ensemble, puis on veut vraiment s'assurer de travailler avec le ministère de la Santé pour qu'on aille tous dans une certaine direction pour s'assurer qu'au moins les choses essentielles fonctionnent.
Concrètement, ça veut dire quoi, ça?
En fait, la première mesure qu'on propose, là, c'est vraiment de s'assurer d'une certaine imputabilité de nos gros centres intégrés, là, nos gros CIS et CIUS, là, pour s'assurer que dans nos GASMA, il y a suffisamment de personnel pour répondre à la demande et que ce personnel-là soit en lien avec des psychiatres répondants puis avec les omnipraticiens, là, de façon très fluide et dans les GMF pour qu'il y ait rapidement des choses qui soient mises en place autour des gens qui demandent de l'aide.
OK, mais pour que ça soit clair sur le premier point, là, sur les guichets d'accès, on me dit qu'actuellement, c'est très variable. Il y a des guichets qui fonctionnent bien et que d'autres ne fonctionnent pas du tout. C'est vrai, ça?
C'est tout à fait vrai. Il y a des endroits dans certains CIUS et CIS là, où on a mis beaucoup de personnel puis ça fonctionne bien, où il y a des psychiatres dédiés qui veulent faire en sorte que ça fonctionne, où on a à la fois des gestionnaires et des médecins de famille qui embarquent là, pour que ça se passe bien, mais il y a des endroits où c'est complètement le contraire, puis c'est très, très difficile et d'avoir du personnel formé et d'avoir une volonté là, des chefs de département de psychiatrie et des PDG là, pour que ce soit bien organisé, ces guichets-là.
OK. Quand vous dites dans le deuxième point de votre manifeste là, qu'il faut reconnaître la contribution des groupes communautaires, des gens qui, bon, chapeautent les familles, les proches, c'est pas déjà le cas?
En fait, il y a des endroits où ça fonctionne bien, où on a des bons liens avec les ressources communautaires puis avec des ressources là, qui offrent de l'enseignement psychologique, mais il faut améliorer ça. Puis il faut améliorer ça dans les régions où ça fonctionne moins bien. Il y a des endroits où ces gens-là sont un petit peu en opposition. Là, il faut s'assurer que tout ce monde-là travaille ensemble. Puis il faut s'assurer de payer nos pères aidants dans les différentes organisations. Puis ça, on a des défis là, autant au niveau syndical qu'au niveau là, d'être capable dans les organisations de payer des gens qui ont déjà eu des problèmes de santé mentale puis qui veulent venir travailler dans les équipes.
OK. Je me tourne vers vous, M. Cloutier. Vous représentez des familles de personnes atteintes de troubles mentaux. Votre réseau s'appelle Avant de craquer. Pour avoir lu je ne sais pas combien d'histoires, pour avoir parlé à des gens, c'est toujours un peu la difficulté. Le problème qui se pose, là, c'est de dire, OK, moi, j'ai un jeune adulte, mettons, psychose. Il me fait peur, il me menace, ou j'ai peur qu'il s'en prenne à lui-même. Bref, puis en même temps, je ne peux pas l'obliger à se faire soigner. Cette phrase-là, là, vous devez l'entendre, là, on ne peut pas l'obliger à être vu et à être traité.
Non, effectivement, on ne peut pas obliger quelqu'un à recevoir des soins et des services. Par contre, on peut organiser les services pour que la personne ait le goût de recevoir ces services-là. Puis c'est pour ça aussi, dans les mesures qu'on suggère, On voudrait qu'il y ait plus de services offerts dans le milieu naturel des personnes, à domicile ou dans des ressources de proximité, parce que c'est beaucoup plus acceptable. Les personnes acceptent plus de recevoir des services dans leur milieu que d'être hospitalisées. Puis, compte tenu qu'il y a des délais d'accès aussi dans les services spécialisés en santé mentale, bien, si on offrait des services dans le milieu de vie, bien, on réduirait la pression actuelle du réseau que le réseau subit au niveau des services hospitaliers puis des services en psychiatrie.
Donnez-moi un exemple de ce que vous voulez dire là, par un suivi ou des soins à l'extérieur de l'hôpital dans un milieu de vie.
Oui, ben ce qu'on suggère, entre autres, comme mesure, c'est qu'il y ait des équipes multidisciplinaires de proximité qui iraient à domicile. Lorsque une personne est en crise, par exemple, ben souvent la famille comme laissée elle-même. Hein. On sait que les familles sont à 24 heures par jour, 7 jours par semaine, en soutien à la personne qui est atteinte dans leur famille. Donc, s'il y avait des intervenants par des équipes spécialisées multidisciplinaires qui allaient à domicile, bien, les familles, en même temps, recevraient du soutien et pourraient être aussi référées aux organismes communautaires qui, eux, sont vraiment équipés pour soutenir les familles là, dans ces situations-là.
Oui, docteur Gamache, je vous écoute là-dessus.
René, là, dans le fond, récemment, là, j'avais un jeune psychotique là, qui était à domicile là, depuis un an, pas dangereux, là, mais qui mangeait plutôt la nourriture de ses grands-parents plutôt que celle de son père et sa mère parce qu'il avait peur d'être empoisonné. Puis ça durait depuis un bout. On essayait d'avoir des rendez-vous, de proposer de la médication, puis notre jeune homme ne voulait pas. Puis à un moment donné, je suis allée à domicile avec l'infirmier. L'injection était dans notre sacoche, puis on a discuté dans le salon. Puis j'ai dit au jeune homme, si tu prends pas ton injection, on va être obligé de t'amener à l'hôpital, puis c'est pas agréable, puis on n'a pas envie de ça, puis toi non plus. Puis finalement, il a pris l'injection dans le salon très calmement, et j'avais une travailleuse sociale qui travaille avec les policiers qui était prête à intervenir si jamais ça fonctionnait pas, mais en douceur, en disant on va être obligé de t'amener à l'hôpital. Donc, c'est un exemple où on a fait ça vraiment à domicile de façon très... très calme, mais c'est sûr que des fois, il faut mettre un peu de limite puis parler fermement, mais avec empathie, puis fait que ça évite tout le fait d'attacher quelqu'un dans une civière puis de l'obliger à venir à l'hôpital là, de façon coercitive
mais
importante.
Oui, je vous donne un exemple que je peux voir souvent, là, c'est-à-dire le va-et-vient, la navette entre l'hôpital et le logement, par exemple. Quelqu'un est en crise, la police va intervenir, on va l'amener à l'hôpital, on va le stabiliser, il sort deux jours ou trois jours plus tard. Et ça recommence, se va et vient. Docteur Gamache, comment on fait pour empêcher ça?
En fait, il y a deux cas de figure. Hein? Je vous donne deux exemples différents. Le premier exemple, donc, un jeune homme, effectivement, qui consomme de la cocaïne ou des amphétamines, qui est dans le sous-sol de chez sa mère, là, puis qui va avoir tendance la nuit à être hyper agité, à faire des trous dans le mur, à être violent, mais qui n'a pas nécessairement une grosse pathologie psychiatrique, mais qui va devenir psychotique sous la cocaïne ou les amphétamines. Ce jeune homme-là va être amené à l'hôpital parce que la mère va appeler la police. Puis après une journée ou deux, il va être beaucoup plus calme. Il va avoir retrouvé ses esprits, puis il va dire « oui, je recommencerai plus », puis ça va être correct. Là, on n'a pas beaucoup de moyens, sauf de dire à la maman, puis il faut la soutenir là-dedans. Il y a des groupes entourages là, pour les jeunes toxicomanes. On s'occupe de la mère, puis on apprend à la mère à mettre des limites. Puis avec les policiers, on y va plus du côté judiciaire, puis on soutient cette mère-là puis ce jeune homme-là pour lui mettre des limites puis encadrer sa consommation. L'autre cas de figure, le même jeune homme qui est dans le sous-sol de chez sa mère, mais qui consomme des petits joints de cannabis de temps en temps, mais qui a une schizophrénie. Ce jeune homme-là, ben, on va l'amener à l'hôpital, puis on va lui parler de sa schizophrénie, puis on va dire, il faut absolument que tu sois traité. Et on va lui dire que son cerveau est pas aussi solide que celui de ses amis, puis que quand il fume du cannabis, il devient beaucoup plus psychotique et dangereux. Lui, on va aller au tribunal pour demander une ordonnance de traitement psychiatrique pour venir à bout de le traiter contre son gré, parce qu'on a une pathologie psychiatrique claire, puis ce jeune homme-là refuse le traitement.
Monsieur Cloutier, vous êtes, je le disais, DG d'un groupe communautaire, le réseau Avant de craquer. Êtes-vous toujours en mode survie sur le plan financier? Êtes-vous capable de compter sur des subventions adéquates ou s'il faut se battre à chaque année pour être capable de continuer à fonctionner?
Bon, on est nettement sous-financé parce que on estime qu'on rejoint à peu près le quart des personnes, des membres de l'entourage qui ont besoin de soutien. Puis là, c'est vraiment là, les familles qui sont les plus affectées là, par les troubles de santé mentale. Donc, il faudrait vraiment quadrupler le financement des organismes qui s'occupent des familles pour être capable de rejoindre, par exemple, les jeunes qu'on ne rejoint pas actuellement. C'est une clientèle complètement oubliée actuellement dans notre continuum de services en santé mentale. On n'est pas capable d'offrir tous les services de proximité. Il y a plein de régions du Québec, des MRC qui sont plus ou moins couvertes. Il y a des groupes, par exemple, dans les communautés culturelles, il y a dans les milieux de travail, les collègues de travail ont besoin de soutien. Donc, si on veut être capable de rejoindre tout ce monde-là, il va falloir vraiment augmenter le financement des organismes, là, de familles.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce matin. Bonne journée.
Bonne journée.
Merci. Docteur Claire Gamache, qui est médecin psychiatre et qui pratique à Laval, et ce qu'on appelle le fameux guichet d'accès de Laval. Et comme on l'a dit, c'est très variable comme efficacité d'accès. Et René Cloutier, le directeur général du réseau Avant de craquer, qui s'occupe justement des familles, des proches, des gens qui sont atteints de troubles mentaux.